Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
L'oraison est un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. C'est Sainte Thérèse qui disait cela. Cette forme de prière, principalement enseignée par les Carmes, demande un apprentissage pour être correctement pratiquée. C'est l'objet de cette nouvelle série d'émissions sur Radio Présence, une école d'oraison, tout au long de ce carême, tous les mardis, pour faire grandir en chacun de nous la rencontre et l'amitié profonde avec Jésus. Pour cette première émission de l'école d'oraison, j'ai la joie d'accueillir le frère Jean-Mariam de l'Enfant Jésus. Bonjour frère.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes le premier intervenant de cette école d'oraison, un apprentissage qui va se dérouler au couvent des Carmes, donc qui se déroule puisqu'il a commencé déjà hier soir, tous les lundis soirs, et puis à Radio Présence le lendemain, le mardi. Quelques mots pour commencer sur le déroulement de cette école, comment elle se passe?
Bien écoutez, c'est tout simplement 6 rencontres pendant 6 semaines, chaque lundi soir au couvent et puis chaque mardi à la radio. Et puis une septième rencontre, un mois après la sixième, un petit peu pour restimuler les fidèles qui ont participé. Et puis chaque rencontre se divise en fait en 4 temps. Le premier temps, il y a un temps de partage par petits groupes sur la semaine écoulée, comment chacun a pu vivre son temps d'oraison quotidien.
Oui, parce que vous allez nous donner des exercices à faire à la fin de
l'émission. Il y aura des exercices pratiques, ouais, que les auditeurs se rassurent. Et puis le deuxième temps, c'est un temps d'enseignement sur l'oraison. Le troisième temps, c'est un tout petit temps de points pratiques que l'on donne aux participants pour la semaine. Et puis le dernier temps, ce qui est le plus important en fin de compte, c'est le temps d'oraison ensemble à l'église de notre couvent.
Donc un temps d'oraison qui dure au début
un quart d'heure, et puis on va progressivement jusqu'à une demi-heure.
Sacré défi. Alors voilà, j'espère que nos auditeurs pourront prendre le train en marche et effectivement se mettre aussi à cette école d'oraison. Frère Jean-Mariam, pourquoi prier ?
Pourquoi prier ? Alors, juste avant de répondre à la question, je voudrais rappeler peut-être ce que disait notre mère Sainte Thérèse, que vous avez évoqué pour commencer, Sainte Thérèse d'Avila, qui, dans le Chemin de Perfection, le livre qu'elle avait écrit pour ses filles, qui lui avait demandé des conseils pour l'oraison, commençait en faisant remarquer, on était au XVIe siècle, le monde est en feu. Et alors, vous le savez, ce sont les guerres de religion avec les protestants, les guerres à l'occasion de la conquête du Nouveau Monde, les guerres contre les morts, etc., etc. Et donc, le monde est en feu. Et Thérèse dit à ses filles, ce n'est point l'heure de traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance. Et elle introduit sa grande école d'oraison comme ça.
Et qu'est-ce qu'elle entendait par des affaires de peu d'importance ?
Eh bien, des affaires de peu d'importance, c'est tout ce qui ne concerne pas finalement Dieu.
Dieu lui-même.
Dieu lui-même, qui est le cœur de l'oraison. Et donc, je voulais reprendre un petit peu ces mots de notre mère Sainte Thérèse, parce que finalement, plusieurs siècles plus tard, le monde est en feu aussi. Il y a des guerres partout, enfin des malheurs partout. Enfin voilà, je pense qu'on est assez abreuvé par les grands médias de tous les malheurs qui se passent dans le monde. Eh bien, le monde est en feu et avec cette petite école d'oraison que l'on va vivre à la radio, je pense qu'on peut rappeler ça, ce n'est point le temps de parler de choses de peu d'importance. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler de l'oraison, en commençant par pourquoi prier, hein, puisque l'oraison est une prière. Alors, pourquoi prier ? Remontons peut-être à l'origine et en particulier à la création de l'homme. Si vous vous souvenez, dans le chapitre 2e de la Genèse, il y a ces mots de la Bible. « Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Dieu insuffle dans les narines de l'homme le souffle de vie et il devient un être vivant. On voit là que l'homme est créé par Dieu face à face. Et on peut dire même qu'il est créé en prière, puisque en fait, se tenir face à face avec Dieu, recevoir son haleine de vie, eh ben c'est ça la prière. Alors pourquoi prier ? Eh bien parce que Dieu nous a créés en priant. Et donc, l'homme, ce petit verset biblique nous rappelle que l'homme est vraiment fondamentalement fait pour prier, pour être face à Dieu et recevoir son haleine de vie, hein, pour devenir un être vivant.
Donc, en fait, c'est répondre à sa vocation de créature.
Exactement ça, ouais. Ouais. On est fait pour prier et en priant, eh bien, on répond de manière très profonde à notre vocation de créature, d'homme et de femme, quoi. Voilà. On est créé, on peut dire aussi, face à face, c'est-à-dire dans une relation d'amour. Hein. Quand on n'aime pas quelqu'un, on lui tourne le dos.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et là, Dieu nous crée face à face, c'est-à-dire dans l'amour, quoi. Et donc, il y a un lien très fort entre la prière et l'amour. La prière est une question d'amour. Voilà. Si on ne croit pas en Dieu, ben on ne peut pas prier, en fait.
Et si on n'aime pas, on ne va pas passer du temps avec la personne que l'on n'aime pas.
Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, la prière, voilà, pourquoi prier ? Parce qu'on est...
On
est fait pour ça. Voilà,
tout simplement. Ouais. D'accord. Alors, dans la Bible, il y a quand même de nombreuses références à la prière.
Oui.
La première, c'est cet épisode de Moïse.
Alors, je pense qu'il y a d'autres références avant.
Il y en a
d'autres, mais la grande référence, une grande référence dans la prière, deux grands priants, on peut peut-être s'arrêter sur deux grands priants ce matin. Et le premier sur lequel on peut s'arrêter, effectivement, c'est Moïse, hein, dont il est dit dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, Dieu parlait à Moïse face à face. On retrouve le face à face.
Oui,
là,
c'est ça.
Voilà. Dieu parlait à Moïse face à face comme un homme parle à un ami. Et là, on a deux choses très importantes. Alors, trois avec le face à face, mais Dieu qui parle. La prière, c'est Dieu qui nous parle, en fait.
Donc, c'est de l'écouter, finalement.
C'est d'écouter, effectivement, tout à fait. Souvent, on pense que la prière, c'est déjà moi qui vais parler à Dieu. Mais en fait, non. Dieu nous précède et c'est lui qui nous parle. Hein. Et comme un homme parle à son ami. C'est la deuxième chose. La prière, c'est une question d'amitié. Je disais tout à l'heure une question d'amour, on peut dire aussi une question d'amitié. Dieu qui parle avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. C'est typique de la prière contemplative, cela. Écouter Dieu qui nous parle et passer du temps avec lui comme avec un ami. Voilà. Et dans le livre des Nombres, toujours dans le Pentateuque, eh bien, Dieu dit à Moïse, c'est très très beau ça, « Il est à demeure dans ma maison ». Il y a une traduction qui dit, alors c'est la traduction qui a été reprise par le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2576, « Il est à demeure dans ma maison, je lui parle bouche à bouche dans l'évidence ».
On retrouve cette notion de souffle alors, d'échange de souffle.
Exactement, on retrouve cette notion de souffle, et dans la traduction latine de la Vulgate, eh bien, ce bouche à bouche, c'est « ore ad os », et « ad os ». Et on a là le fondement de toute prière chrétienne finalement, un contact « ad os », d'où vient le verbe « adorer » et d'où vient le terme aussi « oraison », si vous voulez. Hein. Et donc, l'oraison, l'adoration, la prière, eh bien, c'est recevoir ce souffle de Dieu qui est face à nous, quoi, tout simplement. Hein. Et c'est Moïse qui nous le rappelle dans la Bible, c'est ce que lui vivait.
Autre grand personnage de la Bible, c'est Élie.
Oui, oui. Alors, au Carmel, on aime beaucoup en parler parce qu'on le considère comme notre père. Et notre chef, hein, notre père Saint-Élie, on dit au Carmel.
Et pourquoi exactement?
Eh bien, tout simplement parce qu'il aimait aller prier sur le mont Carmel.
Tout simplement.
Une des plus petites montagnes de Terre Sainte. Dans le premier livre des Rois, où l'on trouve le cycle d'Élie, eh bien, il y a deux expériences essentielles que fait Élie. Et la première, c'est le premier cri d'Élie, en fait, dans la Bible. Il est vivant. Le Seigneur devant qui je me tiens. Il est vivant, le Seigneur devant qui je me tiens. Voilà. Et Élie fait cette expérience que Dieu est vivant et qu'on peut lui parler comme à une personne vivante. Alors, comment il fait cette expérience? Peut-être nos auditeurs se souviennent-ils de cet épisode fameux où il part sur le mont Horeb, qui est le mont Sinaï, où Moïse a reçu les 10 commandements. Il s'y prépare pendant une retraite de 40 jours et 40 nuits. Et sur le mont Horeb, Dieu lui dit qu'il va passer. Et il y a un ouragan, mais Dieu n'est pas dans l'ouragan. Il y a un tremblement de terre, mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a ensuite un feu, mais Dieu n'est pas dans le feu. Et ensuite, il y a le murmure d'une brise légère. Et c'est Dieu qui passe. Voilà. Et donc là, ça nous dit quelque chose de très important. C'est que Dieu passe toujours dans la discrétion. Le Dieu vivant. Il faut y être attentif. Parce que une brise, c'est pas grand-chose, quoi. Là, elle est légère et en plus, c'est un murmure. Donc, vous voyez, ça demande vraiment d'être attentif.
Hein.
Ça,
ouais.
Mais où ça aide dans le sens où ça nous dit vraiment la manière dont parle Dieu, quoi. Et il y a une autre traduction de cette expression hébraïque, hein, le murmure d'une brise légère, une autre traduction que je préfère, qui est une voix de fin silence. Et elle est magnifique, cette traduction, parce que ça nous rappelle que Dieu nous parle. Voilà, la voix de Dieu. Le Dieu vivant et vrai est un Dieu qui nous parle. Mais il nous parle dans le silence. D'où l'importance de faire silence pour accueillir sa parole, sa voix, pour entendre sa voix, qui est une voix de fin silence. Et le qualificatif de ce silence, c'est qu'il est fin. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a une autre chose qui est qualifiée de fine, c'est la manne des Hébreux.
Oui.
Et ça, c'est très très beau quand on fait le lien entre les deux, entre la manne qui est fine, entre le silence de la voix de Dieu qui est fin. Eh bien, c'est que finalement, la manne, c'est la nourriture que Dieu donne à son peuple. Et la voix de fin silence, c'est cette parole à laquelle on doit se nourrir aussi pendant la prière.
Et qu'est-ce que vous entendez par fin silence ?
Fin silence, c'est-à-dire un silence à peine perceptible. Déjà, un silence, c'est difficile. Enfin, vous voyez, je ne sais pas. C'est, en fait, comment dire, c'est difficile à expliquer parce que on parle. Là, on est en train de parler quand même de Dieu, vous voyez. Donc, on peut pas dire des choses. On peut pas exprimer Dieu avec. Si on parle de Dieu avec des choses matérielles, avec voilà une voix, c'est physique, c'est extérieur.
On peut pas l'enfermer.
Et ça dépasse forcément ce qu'on va en dire. Alors on le dit avec des mots maladroits. On va dire c'est une voix de silence et ce silence il est fin parce que et puis ça fait référence comme ça à la manne, etc. Donc on doit être nourri de ce silence qui nous est donné par Dieu, etc. Mais ça, en fait, c'est toujours plus grand que ce qu'on peut en dire, ça dépasse complètement ce qu'on peut en percevoir. Alors on le dit maladroitement avec ces mots, quoi. Et la voix de fin silence, c'est une manière de parler de cette voix de Dieu, quoi. Enfin, maladroitement, mais on essaye de le dire quand même, quoi. Enfin, ça nous est donné par les mots de la révélation, quand même.
Autre chose sur cette révélation de la prière à Élie ?
Oui. Autre chose, oui, c'est la deuxième expérience essentielle que fait Élie, c'est que, et c'est son cri aussi, « Je brûle de zèle pour le Seigneur ». Et donc, en fait, cette deuxième chose nous montre que le contact avec le Dieu vivant, normalement, porte du fruit. Élie brûle de zèle, c'est-à-dire qu'il désire faire connaître le Dieu vivant, et on ne sort pas indemne d'un contact avec le Dieu vivant. Et c'est cette deuxième expérience d'Élie qui nous le rappelle. Finalement, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la charité. Plus je vais passer du temps avec Dieu qui est amour, plus normalement ma vie va en être transformée et je vais vouloir transmettre cet amour autour de moi.
Voilà. C'est un bon moyen de vérifier qu'on prie bien.
Exactement. Et ça, on en parlera il y aura un enseignement sur les fruits de l'oraison. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, alors que je prie dans ma vie, il n'y a pas de charité, peut-être que je ne prie pas comme il faut, quoi. Ou peut-être que je ne fais pas une prière chrétienne.
Oui, c'est ça. Peut-être que je regarde juste mon nombril.
Exactement.
C'est ça, malheureusement.
Oui,
alors, il y a aussi d'autres aspects de la prière qui sont rapportés, notamment par les évangélistes Matthieu et Luc, qui rapportent les paroles de Jésus sur la prière, et notamment à propos du Notre Père.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle nous apprend ?
Ah oui, alors ça, c'est excellent. Alors, juste avant de parler du Notre Père, vous voyez, j'ai voulu qu'on s'arrête ce matin sur Moïse, Élie... Et puis Jésus, donc les trois qui étaient présents au mont Tabor pendant la transfiguration, qui est vraiment...
En présence des apôtres, de Pierre, Jacques et Jean.
Et ce mystère de la transfiguration est vraiment un mystère de contemplation, où Jésus fait rentrer dans sa lumière les apôtres, avec Moïse et Élie, deux grands priants de l'Ancien Testament. Donc Et c'est très très fort de penser que Jésus, qui est le Fils de Dieu fait homme, qui est à la fois complètement homme et complètement Dieu, eh bien prie. Et ça devait être une expérience assez extraordinaire de voir le Fils de Dieu prier, l'auteur de la prière en prière, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, il y a quelque chose peut-être qui peut l'évoquer. Cela, c'est un vieux moine qui prie, par exemple, qui a prié toute sa vie, et qu'on voit en train de prier. C'est assez admirable. Et au début de la vie aussi, quand on voit un enfant prier.
Oui.
Qui apprend à prier. Et puis un enfant, pour lui, la prière, c'est presque naturel quand on lui apprend. Et il se met en prière et on a presque envie de lui dire « Mais apprends-moi à prier, mais il ne faut pas lui demander parce qu'il sera un peu perturbé. » Le vieux moine, on peut lui demander. Et c'est ce que font les apôtres avec Jésus, quand ils voient Jésus en prière, et ils vont lui demander « Apprends-nous à prier ». Et c'est là qu'il leur apprend justement le Notre Père, comme vous le disiez. Et le Notre Père nous apprend une chose très importante, c'est que finalement, quand on voit « Apprends-nous à prier », Jésus donne le Notre Père, et c'est une prière avec 7 demandes. Et donc, c'est comme si Jésus disait « Quand vous priez, n'hésitez pas à demander ».
Oui.
Mais en même temps, il y a un ordre dans les demandes. Déjà la volonté de Dieu, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, etc. Et ensuite, des choses pour nous, pour l'homme, notre pain de chaque jour, etc. Et souvent, dans nos demandes de nos prières à Dieu, eh bien, on ne respecte pas cet ordre. On demande déjà des choses pour nous, mais après, que ce soit la volonté de Dieu, son règne vienne, ça... On n'y pense plus.
C'est accessoire. Quoi. mais ce qui est étonnant, c'est que dans cette prière du Notre Père, justement, il y a, comme vous le dites, frère Jean-Mariam, il y a 7 demandes. Et pourtant, au début de l'émission, vous nous avez dit, la prière, l'oraison, c'est vraiment d'abord l'écoute.
Oui.
Écouter Dieu qui parle.
Oui, exactement. Alors c'est pour ça, merci beaucoup, c'est pour ça que le Notre Père commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Vous voyez ? Tout simplement. C'est-à-dire, je me place devant Dieu qui est mon Père et je me mets dans la disposition de l'écouter. Et après, je lui demande.
Donc, il faudrait faire un temps d'arrêt entre...
Pratiquement. Ouais. Et y a des... Alors, je ne sais plus quel phrases. Mystique qui disait quand elle ne pouvait pas prier, ou quel saint, je ne sais plus c'est lequel, qui disait, je ne peux pas quand je commence à prier le Notre Père, je ne peux pas aller plus loin tellement c'est grand.
Immense mystère.
Dire à Dieu, Notre Père. Et ce n'est pas seulement mon Père, c'est aussi le Père de tous ceux qui m'entourent, enfin, de ceux qui pourraient être mes ennemis, quoi. Donc, il y a un mystère très grand, là, et effectivement, on se met déjà à l'écoute de Dieu qui est notre Père. Hein. Et deux caractéristiques dans la prière de Jésus aussi, je pense que c'est important de le rappeler, parce que ça nous aidera pour l'oraison, c'est la solitude. Quand Jésus priait, il aimait partir dans la montagne, à l'écart, précisent les évangélistes plusieurs fois. Hein. Et puis, c'est le silence. Hein. Il aimait beaucoup prier la nuit, notamment. Et on sait que la nuit, ce qui est une des caractéristiques de la nuit, c'est le silence. Hein. Et peut-être si on a fait l'expérience de se lever la nuit pour prier, hein, ou bien parce qu'on avait une insomnie ou pour un tas d'autres raisons, eh ben, on peut être frappé par le silence qui est propice à la prière, en fait.
Oui. Hein.
Solitude et silence, deux caractéristiques de la prière de notre Seigneur.
Ouais. Mmh. Et Jésus a dit, retire-toi si tu veux prier, retire-toi dans ta chambre.
Exactement, voilà, c'est ça. Mmh. Hein. Pour être dans la solitude, seul avec le seul, et dans le silence, hein, pour écouter celui qui nous parle dans le silence.
Quelles sont les attitudes racontées par Jésus dans les paraboles qui sont indispensables à toute prière?
Ah oui, à toute prière, à toute vraie prière. Ouais. Alors, il y a 3 attitudes indispensables que nous donne Jésus, c'est dans l'Évangile selon saint Luc. Hein. Alors, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui rappelle ça, hein, au numéro 2613. Il faut aller les méditer parce que c'est vraiment très très beau. Les 3 attitudes essentielles, eh bien, c'est l'audace, la patience et l'humilité. Voilà. L'audace, ça nous est rappelé avec 3 paraboles. Hein, c'est la parabole de l'ami importun, Luc au chapitre 11, versets 5 et suivants.
Hein. C'est celui qui frappe à la porte
voilà,
la nuit.
Celui qui frappe la porte à la nuit, au milieu de la nuit, la porte d'un de ses amis pour lui demander du pain, 3 pains. Et cet ami, finalement, lui donne, au début, il lui dit non, écoute, je suis couché, mes enfants dorment, etc. Je n'ai pas le temps de donner du pain. Et l'autre insiste. Et finalement, il lui donne ce qu'il veut. Et Jésus dit demandez, vous obtiendrez, voilà, frappez, on vous ouvrira, etc. Et à la fin, il termine en disant la chose la plus importante à demander, c'est l'Esprit Saint. Hein. On retrouve le souffle de vie qui nous est donné dans la prière, justement. Hein. Et donc, par cette petite parabole, Jésus nous rappelle qu'il ne faut pas se gêner avec le bon Dieu, quoi. Hein. Il faut être audacieux. Voilà. Ne pas se dire, mais si je lui demande quelque chose, si je vais vers lui, je vais le déranger. Non, on ne dérange jamais Dieu. Ce n'est pas possible de le déranger. Hein. Et au contraire, on lui donne de la joie. Hein. Donc, l'audace, c'est la première attitude à avoir dans la prière. La deuxième attitude, c'est racontée par la veuve importune au chapitre 18, un petit peu plus loin. Hein, où là, c'est une veuve qui va voir un juge inique pour qu'il fasse ses affaires, etc. Elle insiste, elle revient. Et puis le juge dit, moi, j'en ai rien à faire de cette veuve. Et au bout d'un moment, mais pour qu'elle arrête de me casser la tête, je vais lui donner ce qu'elle veut obtenir. Et là, Jésus nous donne cette parabole pour dire qu'il y a une attitude de patience et de persévérance à avoir dans la prière.
Et de confiance.
Et de confiance, oui. Savoir qu'on va l'obtenir exactement. Mais surtout, ce n'est pas parce que Dieu, qui n'est pas un juge unique, qui est infiniment, enfin, qui est plein de bonté, etc. Donc, si un juge unique donne à la veuve ce qu'elle veut obtenir...
Combien plus Dieu voilà,
exactement.
Dieu donne.
Hein. Mmh. Mais il faut patienter. Hein. Parce que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Comme on dit dans les psaumes, pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, quoi. Donc, quelquefois, on a l'impression qu'on attend 1000 ans, mais en fait, pour Dieu, c'est, il nous a donné au bout d'un jour, quoi. Vous voyez ? Donc, non, patience et persévérance. Et puis, la dernière attitude, c'est la parabole bien connue du pharisien et du publicain, avec le publicain qui se frappe la poitrine tout au fond du temple, prend pitié du pécheur que je suis, hein, en n'osant même pas lever les yeux vers le Seigneur. Eh bien, c'est l'attitude de l'humilité. Et cette attitude est fondamentale dans toute vie spirituelle. Hein. C'est notre mère Sainte Thérèse d'Avila dit que l'humilité est le fondement de toute vie spirituelle, hein. Indispensable à toutes les personnes qui pratiquent l'oraison. Voilà. Donc l'humilité, c'est-à-dire cette attitude qui fait que je reconnais que sans Dieu, je ne suis rien, quoi, que j'ai besoin de lui, hein, que Dieu est la source de ma vie, voilà, hein, que sans lui, je ne peux rien faire.
Et ça, c'est aussi une grâce qu'on peut demander.
Exactement, oui. Ah, tout à fait. Ouais. Alors, comme toute vertu, en fait, il faut poser des actes d'humilité. Hein, et puis, en même temps, c'est une grâce qu'il faut demander. Hein, la grâce de l'humilité, il faut la demander, cette grâce.
Ouais. Il faut la demander. Ouais. Frère Jean-Mariam, je vous propose de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons « Nada te turbe » d'après un poème écrit par Sainte Thérèse d'Avila.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
La prière d'oraison, comment la définir, comment la situer parmi les autres formes de prière? C'est la première étape de l'école d'oraison que nous vous proposons sur Radio Présence aujourd'hui avec le frère Jean-Mariam de l'Enfant Jésus Carme au couvent de Toulouse. Frère Jean-Mariam, vous nous avez expliqué dans cette première partie d'émission pourquoi il était important de prier et vous nous avez expliqué que c'était co-naturel, en fait, c'était vraiment la vocation, enfin, ça, voilà, la vocation de l'homme.
Oui.
Il y a de nombreuses formes de prière. Est-ce que vous pouvez peut-être nous introduire à ces différentes formes, peut-être par une petite histoire?
Oui, c'est l'histoire du petit Jean.
Ah, le petit
Alors,
Jean.
Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je ne sais plus où je l'ai trouvé, dans un livre. Quoi. C'est le petit Jean qui reconnaît qu'il n'est rien sans ses parents. Voilà. Que tout ce qu'il a, il leur doit. On voit qu'il a une attitude juste et une bonne vision des choses. Hein. Voilà.
C'est ce que vous disiez sur l'humilité, juste avant
exactement,
la pause musicale.
Voilà, hein, tout à fait, oui. Et puis, ce petit Jean, eh bien, il a un désir, c'est qu'il aimerait bien avoir un vélo. Alors, il va voir son papa et puis il lui dit, papa, est-ce que tu pourrais m'offrir un vélo, s'il te plaît? Et comme c'est son anniversaire dans peu de temps, son père accepte et il profite de l'occasion pour lui offrir un vélo. Alors, comme le petit Jean est poli, eh bien, il remercie son papa. Merci beaucoup pour ce vélo. Et puis ensuite, immédiatement, il saute sur son vélo et puis il dévale la rue de la maison, là, qui est devant la maison, il va dans la campagne. Et puis, il est tellement heureux avec ce vélo qu'il se met à chanter, quoi. Et puis, qu'il se met à crier même en disant c'est super ce vélo. Et puis, mon papa, c'est le meilleur des papas. Vraiment, il est extraordinaire, ce papa qui m'a offert le vélo, etc. Et puis ensuite, il revient à la maison. Il remercie de nouveau son papa. Et puis, il lui dit, papa, est-ce que tu pourrais aussi offrir un vélo pour ma petite sœur Thérèse, quoi, pour qu'on puisse faire du vélo ensemble, quoi. Voilà. Eh bien, là, en fait, avec cette petite histoire, elle nous donne les cinq grandes formes de la prière. Hein, et qui nous rappelle, cette petite histoire nous rappelle aussi que la prière, c'est d'abord et avant tout une affaire de relation avec Dieu qui est notre Père. Voilà. Hein. Alors, vous voyez, on a les cinq grandes formes de la prière avec la première de ces formes, c'est l'adoration, hein, c'est-à-dire l'attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur, hein, l'attitude de l'homme qui reconnaît que devant Dieu, eh bien, il n'est rien et qu'il a besoin de Dieu pour vivre. C'est cette attitude du petit Jean devant son papa qui sait que sans son papa, il n'a rien du tout.
Voilà, c'est ça. Sans Dieu, voilà, on ne peut rien faire.
C'est ce que dit Jésus dans l'Évangile. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, au chapitre 15 de Saint Jean. Donc, c'est très, très fort, ça aussi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une parole de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne dit pas, sans moi, ça va être difficile, vous allez galérer, machin. C'est non, rien. Rien n'est possible sans Dieu. Et donc, cette attitude qui reconnaît que rien n'est possible sans Dieu, eh bien, c'est l'attitude d'adoration. Et c'est pour ça que souvent, dans l'adoration, l'attitude spécifique de l'adoration, c'est l'agenouillement, de se faire petit. Notre Père Saint-Élie, d'ailleurs, quand il priait sur le mont Carmel, il priait à genoux, la face contre terre. Il se faisait tout petit devant Dieu, le Dieu vivant et vrai. Eh bien, c'est l'attitude de l'adoration. Donc ça, c'est la première forme de prière, l'adoration. Et puis ensuite, la deuxième grande forme de prière, tout ça c'est rappelé aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, dans la quatrième partie qui est très très bien faite.
Oui, sur la prière.
Oui, sur la prière. La deuxième grande forme de prière, c'est la prière de demande. Et on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure avec le Notre Père.
Oui, tout à fait.
Et on a rappelé aussi, oui, voilà, les sept demandes, qu'il y a un ordre pour demander les choses. Déjà, je demande pour Dieu que sa volonté soit faite, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne. Ensuite, je demande pour moi. Et c'est important de respecter cet ordre de demande pour rentrer justement dans la volonté de Dieu d'une certaine manière. Parce que quelquefois, on dit j'ai demandé, mais Dieu ne m'a pas donné.
Oui. Alors peut-être Dieu n'a pas répondu.
Dieu n'a pas répondu. Peut-être qu'il veut tout simplement nous faire patienter. Peut-être aussi que notre demande n'était pas ajustée à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est notre bonheur, c'est la vie. Et quand on demande quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, eh bien, c'est pour notre malheur, c'est du côté de la mort, vraiment. Ouais. C'est très, très fort, ça. Voilà, que ta volonté soit faite. Et les demandes, prière de demande.
Pourquoi vous dites que les premières demandes du Notre Père sont des demandes pour Dieu? Parce qu'en fait, ça implique quand même l'action de l'homme. Que ta volonté soit faite, en fait, ça veut dire que l'homme doit faire la volonté de Dieu.
Oui, alors en fait, on peut penser que ça implique d'abord le travail de l'homme, mais en fait, non, c'est déjà le travail de Dieu. C'est déjà le travail de Dieu et l'homme collabore au travail de Dieu.
Ouais, c'est ça.
Il participe, enfin, voilà. Mais c'est déjà le travail, c'est déjà que Dieu fasse sa volonté en moi. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, parce que sinon, on n'est pas les premiers. La grâce de Dieu nous précède en tout. Voilà. C'est toujours Dieu qui est en premier, comme disait la grande sainte Jeanne d'Arc, enfin la petite sainte Jeanne d'Arc, enfin elle est grande mais elle est petite, eh bien Dieu premier servi.
Ouais,
et c'est vraiment ça, Dieu premier servi, parce que Dieu est le premier en tout. Voilà, il faut, ça nous, ces demandes du Notre Père nous le rappellent. Et puis la troisième grande forme de prière, c'est la prière d'action de grâce. Et peut-être ça, c'est la prière des enfants polis, quoi, en fait.
Et ça, et c'est ce petit garçon Jean qui va remercier son père d'avoir
exactement.
Reçu ce beau vélo.
Et en fait, peut-être que nous, on n'est pas assez, on se comporte pas en enfant poli avec Dieu. Peut-être on le remercie pas assez souvent pour tout ce qu'il nous donne, à commencer par cette vie. Hein. Chaque matin, quand on se lève, c'est grâce à Dieu, en fait. Hein. Si Dieu cessait de penser à nous une seconde, on disparaîtrait dans le néant. Ou si il cessait de nous aimer une seconde, on disparaîtrait dans le néant. Hein. Donc c'est rien que pour ça, quand on y pense, on peut le remercier. Quoi. Merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le jour qui se lève, pour les personnes qui m'entourent, etc. Vous voyez, enfin, donc, on a pour le baptême que j'ai reçu, pour l'Eucharistie à laquelle je peux participer, etc. Enfin, on a plein de motifs d'action de grâce et peut-être qu'on ne le fait pas assez souvent. Mmh.
Hein. Est-ce que ce n'est pas l'objet de cet office des Laudes qui est dit le matin ?
Oui, exactement, oui. Ouais, c'est une grande action de grâce, les Laudes, ouais, tout à fait, ouais, où on loue le Seigneur. Alors, c'est justement, les Laudes, c'est parce que l'action de grâce est liée à la louange aussi. Hein.
Mm-hmm.
Et la louange, c'est la quatrième forme de prière. Hein. Et les Laudes, c'est vraiment les Laudes, ça veut dire la louange. Hein. C'est vraiment l'office de la louange. Et alors, la louange, en fait, c'est cette prière qui nous tourne complètement vers Dieu. C'est-à-dire, on le remercie pas, mais on l'applaudit d'une certaine manière pour ce qu'il est. Hein. Une grande prière de louange, c'est à la messe le Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Hein. Toi le seul saint, toi le seul Seigneur. Vous voyez, on se tourne vers lui et on le magnifie pour ce qu'il est. Il est saint, il est Seigneur, il est Dieu. Et ça ne change pas quoi.
Alors que l'action de grâce, on le remercie pour ce qu'il donne.
Oui, pour ce qu'il nous a donné.
Pour ce qu'il fait.
Voilà, exactement. Hein. Donc il y a quelque chose de gratuit dans la louange. Hein. Qui est très très beau. Hein. C'est quand le petit Jean il est sur son vélo. Mon papa, c'est le plus grand, c'est le magnifique, il est magnifique. Voilà. Ça, c'est de la louange. Hein. Voilà. Donc, peut-être la louange, on peut dire que c'est. Enfin, je déborde un peu là, mais que c'est vraiment l'anti-péché par excellence, puisque le péché nous centre sur nous-mêmes. Bien, la louange nous centre sur Dieu. Hein. Et pour sortir de mauvaises habitudes, de péchés, etc., on ne pense pas assez souvent qu'il y a la louange. Quoi.
Hein.
Donc, la louange. Ouais.
Donc, la dernière forme
puis,
Donc, on a dit. Adoration,
demande,
action de grâce,
et puis
la louange,
et puis la prière d'intercession.
Dernière, intercession. Hein.
Ça, c'est la prière de la communion des saints, c'est-à-dire on intercède pour ceux qui ne prient pas ou qui prient mal, ou même qui peuvent prier, mais qui ont besoin d'un encouragement, d'une aide par notre prière. Hein. Voilà, c'est l'intercession, c'est je demande, mais pour les autres. Hein. Mm. Vous voyez, quelquefois on entend des fidèles qui disent ouais, mais je vais pas demander pour moi, il faut que je demande pour les autres. C'est une bonne intuition, hein. C'est-à-dire, et on se dit non, je peux pas demander pour moi, je suis pas égoïste. Alors que en fait, il faut demander pour soi. Hein.
Oui, c'est ce que vous disiez au début, et puis demander l'Esprit Saint,
exactement,
notamment.
Exactement. Mmh. Hein. Donc on peut demander pour soi, mais c'est bien aussi de demander pour les autres. Hein. voilà.
Ça élargit
la prière.
La prière. Hein.
C'est ouais. Ça nous rappelle qu'on n'est pas les seuls, et puis ça nous rappelle la dimension ecclésiale de la prière. Et justement, c'est 5 grandes formes de prière se retrouvent condensées dans l'Eucharistie. Hein. L'Eucharistie qui contient et qui exprime toutes les formes de prière. Donc c'est pour ça que c'est tellement important, enfin c'est pas seulement pour ça, mais que c'est tellement important de participer à la messe, d'y aller chaque dimanche et puis pendant la semaine si on peut. Et ça nous rappelle, ça nous donne une dimension ecclésiale aussi à notre prière.
Mmh. Et quand on verra plus spécifiquement l'oraison, est-ce que finalement on va retrouver ces différentes formes de prière dans l'oraison ?
Exactement, ouais. Tout à fait. Ouais. Merci pour la question, parce que c'est tout à fait ça. Enfin, si on rappelle ces différentes formes de prière, c'est que quand on prend ce temps spécifique d'oraison, eh bien, on peut passer d'une forme à l'autre de la prière. C'est-à-dire, je peux être dans la louange pendant un moment, et puis ensuite je peux demander... Et puis après, je peux intercéder pour telle ou telle personne. Et puis, je peux me mettre en adoration silencieuse, etc. Enfin, vous voyez, donc, c'est important d'avoir ces différentes formes de prière qui peuvent être utilisées pendant le temps d'oraison. Oui, tout à fait. Ouais.
Mmh, d'accord. Ouais. Alors, il y a aussi, frère Jean-Mariam, 3 expressions majeures de la prière. La prière vocale, la méditation et puis l'oraison.
Et puis
comment les distinguer ?
Oui. Alors, on pourrait dire que ça va de la plus extérieure, la plus facile, quoi, la plus audible, ouais, à la plus intérieure et à la plus profonde, quoi, à la moins perceptible, je sais pas comment dire, quoi.
Oui, voilà. c'est comme le fin silence.
Voilà, exactement, ouais. Exactement. Hein. Et en fait, c'est important, parce que, vous voyez, ces 5 formes de prière peuvent s'exprimer de manière différente. Hein. C'est-à-dire, je peux louer avec ma voix, hein, c'est la prière vocale. Ou bien je peux faire comme une méditation par rapport à la louange, penser à ces anges de la nuit de Noël qui ont loué le Seigneur, et puis, enfin, vous voyez, méditer sur la louange. Et puis tout ça, ça peut me faire arriver jusqu'à l'oraison. Hein. Alors c'est déjà l'oraison d'une certaine manière, si je prends l'oraison carmélitaine, c'est-à-dire ce temps consacré à Dieu, rien que pour Dieu, hein, à la prière. Et je peux passer par ces différentes expressions, et notamment la prière vocale et la méditation. Et donc la prière vocale, c'est de prier avec notre voix, avec notre corps. La prière vocale, c'est, le catéchisme dit, elle associe le corps à la prière intérieure du cœur. Voilà. C'est ça la prière vocale. Donc je prie avec mon corps. Je dis à notre Père à voix haute, c'est la prière vocale.
Ou je chante.
Ou je chante. Voilà, je prie avec ma voix. Et même si je chante intérieurement, par exemple, je peux parce que je suis, dans un métro, je voudrais prier. Voilà, et bien je peux chanter intérieurement, gloire à Dieu. Eh bien, je fais une prière vocale, hein, tout simplement. Voilà, donc la prière vocale, c'est la plus facile. Quand on disait tout à l'heure que Jésus a appris à ses apôtres à prier avec le Notre Père, il leur donne une prière vocale.
Oui, hein. Il leur donne des paroles.
Oui, il leur donne des paroles. Donc, faut pas mépriser cette première expression de la prière.
Hein. Ça peut être devant un magnifique panorama des Pyrénées,
voilà.
un élan du cœur. Voilà, ouais, mon Dieu, tu es grand, tu es beau.
Ouais, tout à fait.
Et ta création est magnifique.
Ouais. Ouais. Et puis ensuite, la méditation, le catéchisme dit, c'est une recherche priante qui met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion, le désir. Et en cela, je crois que c'est Saint Ignace qui nous vient en aide parce qu'il a beaucoup médité de manière imaginative les évangiles. C'est-à-dire on prend un passage de l'évangile, un texte de l'évangile, et puis on réfléchit dessus, on s'imagine au milieu des auditeurs qui sont en train d'écouter Jésus, de participer à la vie avec Jésus, etc. Voilà, et ben ça, c'est la méditation.
Hein. C'est un peu la lectio divina.
Exactement.
Ça
peut être de la lectio divina. La méditation peut être, à partir d'un texte de la parole de Dieu, je médite. Et ça peut nourrir mon oraison aussi. Hein. C'est-à-dire, parce que quelquefois, on voit, vous voyez, ces étapes du plus extérieur au plus intérieur. Au bout d'un moment, la prière vocale, bon, on a dit des mots, mais on va aller un peu plus loin. Et on sent que la méditation, ça nous mène vers ce un peu plus loin, quoi. Hein. Et puis, au bout d'un moment, peut-être, ça peut arriver qu'on a dit des mots, on a médité. Puis on n'a plus rien à dire, quoi. Et en fait, on est tout simplement satisfait d'être là avec Dieu, sans un mot, dans le silence, sans méditer, sans utiliser son imagination ou quoi que ce soit. Je suis là avec Dieu.
Et ça, c'est l'oraison.
Et ça, on entre en oraison. C'est une étincelle de contemplation qui nous est donnée, quoi. Voilà. Donc voilà pour la progressivité. Et puis la belle définition que vous avez lue au début de cette émission, hein, de notre mère Sainte Thérèse, qui est tellement importante qu'elle a été reprise justement par le catéchisme au numéro 2709. L'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé.
Donc voilà, il y a tout dans cette citation.
Il y a tout. Ouais. Il y a Dieu, hein, puisque pour faire oraison, il faut être deux. Moi et Dieu, et le plus important, c'est Dieu, qui me précède et qui m'attend. Hein. C'est que je sente quelque chose ou que j'en sorte rien, Dieu, il est là et il agit.
Il est présent.
Voilà, il est présent et c'est ça qui compte. Hein. Et puis, c'est on se sait aimer, c'est-à-dire je crois de tout mon cœur que Dieu est amour et qu'il m'aime. Voilà. Donc, ça, c'est pas rien quand même de se déplacer, de prendre un temps d'oraison, de prendre un rendez-vous avec ce Dieu dont on se sait aimer. Hein. Et puis, un commerce intime d'amitié, c'est-à-dire un échange.
Oui, c'est ça.
Voilà, je lui parle.
Un dialogue intérieur.
Il me parle. Oui. Hein. Mais il me parle dans le silence, comme on disait avec notre Père Saint-Élie. Donc, c'est un peu déroutant au début, et puis même à la fin, d'ailleurs. Mais voilà, et on s'entretient souvent, seul à seul, souvent, chaque jour.
Souvent, oui.
Chaque
c'est
jour,
important, hein. Ce mot.
Et puis, seul à seul, voilà, dans la solitude. Même si au Carmel, on a l'habitude de faire oraison en communauté, hein, tous ensemble.
Mais vous êtes dans le silence.
On est dans le silence et on est seul devant Dieu, quoi. Mmh. Et mon oraison, elle est différente de celle de mon frère qui est à côté ou je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Déjà, j'ai du mal à savoir ce qu'il y a dans le mien, quoi. Enfin, vous voyez, donc... mais voilà, c'est seul à seul, ouais, avec Dieu.
Alors, qui dit école d'oraison dit travaux pratiques.
Ah oui,
et devoir à faire à la maison avant de nous quitter. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes pour avancer pendant cette semaine?
Oui, oui, alors tout à fait. Alors, ce qui est très important pour avancer cette semaine, c'est de se décider à prendre chaque jour un temps d'oraison. Hein. Voilà, il y a une décision à prendre. Hein. Je vais répondre à ces trois questions. Où, quand, combien, hein. Où faire oraison, quand faire oraison, combien de temps? Voilà, ce sera les trois points pratiques pour les travaux de la semaine. Alors, où il faut choisir de préférence un lieu calme, voilà, où il y a peu de passages. On peut aménager un coin prière avec une bougie, une Bible, une icône, un crucifix, enfin voilà. On peut prendre ce temps aussi dans une église ou dans une chapelle, ça peut aider. Hein, ou encore dans la nature, hein, si on a l'occasion de souvent aller dans la nature, on peut prendre ce temps dans la nature. Le fait que ça soit toujours au même endroit, ça nous aide à la fidélité en fait. Ce qui est très important, c'est chaque jour la fidélité, hein, chaque jour un petit temps d'oraison. Hein. Voilà. Alors où, quand, c'est bien de choisir ce moment à l'avance, de ne pas dire bah, « quand j'aurai le temps ». Parce que finalement,
oui,
arrive
parce
le
là,
soir,
la journée, file,
la journée file exactement, et puis le soir arrive, et ah bah j'ai pas eu le temps. Oui. Et puis là, je suis trop fatigué, je me couche. Non. Hein, donc quand, c'est bien de choisir à l'avance. L'idéal, ça reste au début de la journée. Hein. On fait souvent l'expérience dans ces choses-là que ce qui n'est pas fait au début de la journée, on a beaucoup de mal à le faire par la suite.
Oui,
hein.
Puis la tête est moins polluée,
voilà,
par
en plus,
les activités, voilà, et les informations de la journée.
Alors, quitte à se lever 10 minutes plus tôt, par exemple, hein, pour faire ce petit temps d'oraison. Si on a besoin de prendre un café, on prend un café, voilà. Mais voilà, donc se fixer un moment pendant la journée. Et de même que le lieu, le fait que ce soit toujours au même endroit, ça nous aide. Le fait que ça soit toujours au même moment, ça nous aide aussi.
Hein. D'accord.
Voilà, c'est très important.
Et alors là, pour cette première semaine, il faut fixer quoi, 5-10 minutes?
Alors voilà, c'est le combien.
Ah,
alors,
c'est le combien.
Nos saints du Carmel, que ce soit Élisabeth de la Trinité ou Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, ils disent que pour laisser un espace pour que Dieu puisse agir dans notre vie de manière plus efficiente, enfin, je ne sais pas comment dire, quoi, il faut au moins un quart d'heure, hein, au moins 15 minutes. Hein. C'est ce que conseillait Élisabeth à sa maman, Sainte Élisabeth, et sa maman, elle disait un quart d'heure. Alors, elle dit, bah, prends 3 fois 5 minutes. 5 minutes le matin,
ah,
5 minutes
oui,
le midi, 5 minutes le soir, on
oui,
peut faire comme ça.
Ça peut faire moins peur quand on
voilà,
commence.
Ça peut faire moins. Mais surtout, si un quart d'heure, ça fait peur, eh bien, prenons 5 minutes. Et il vaut mieux faire 5 minutes chaque jour de la semaine plutôt que se dire, ouais, je commence avec 30 minutes et puis, en fait, on ne tient pas de la semaine. Quoi.
Ouais.
Enfin, vous voyez, il vaut mieux un petit peu chaque jour. Hein. Et puis, hier soir, il y a une maman qui a dit, mais moi, au bout de 5 minutes, enfin, il me faut 5 minutes pour sortir de toutes les préoccupations, etc. Alors, comment je fais? Eh bien, prenez 10 minutes, quoi. Sortez pendant 5 minutes de vos préoccupations, le calme qui arrive, et puis ensuite, vous restez 5 minutes avec le bon Dieu, quoi.
Mm. Hein?
Donc, voilà, combien? Au moins 5 minutes cette semaine. Hein? Et puis, la semaine prochaine, on rajoutera 5 minutes.
Merci beaucoup, frère Jean-Mariam de l'Enfant Jésus, pour cette première étape de l'école d'oraison. Et donc, nous avons rendez-vous mardi prochain pour une deuxième étape.